L'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes dans les studios de Radio Taf à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées, les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour.
Alors en effet, le sionisme,
beaucoup de questions,
absolument. Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est une alliance de ces trois choses? C'est une métaphore?
C'est une bonne question. Je crois que le sionisme a été une rencontre entre une histoire d'un côté, une culture, un peuple, et puis dans ce peuple, il y avait une langue. Une langue qui n'était plus parlée par tous, ou qui était peut-être connue de ceux qui lisaient des livres de prière, ou qui étaient capables de lire des livres de prière et de comprendre le sens de textes talmudiques. Mais disons que les masses juives, si on peut dire, parlaient plutôt d'autres langues que l'hébreu. Et donc il a fallu cette rencontre, et il y a quelque chose dans le mouvement sioniste qui est intéressant et qui est peut-être différent de tous les mouvements nationaux. Je crois que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui un petit peu. C'est la différence, au fond, entre le sionisme, mouvement national, et les autres, peut-être, mouvements nationaux qui n'ont pas eu besoin, justement, de réapprendre cette langue, qui n'ont pas eu besoin de retourner sur leur terre, qui n'ont pas eu besoin de retrouver cette relation avec une demeure. Et donc, le sionisme est à la fois une métaphore, métaphore de retour à la terre, de retour à la langue et de retour aux lieux qui ont marqué son histoire ancienne. Et puis aussi, effectivement, la réalisation d'une alliance profonde, historique, entre une terre, un peuple et une langue. Mais c'est bien plus qu'une langue, puisque c'est la langue de la Torah, puisque c'est la langue de la Bible, puisque c'est la langue des grands textes juifs. Et donc, cette langue, elle n'est pas seulement la langue aujourd'hui des Israéliens, qui est une langue parlée dans laquelle on peut faire son marché et se raconter des blagues et faire des jeux de mots et avoir même un argot qui est très très développé dans la rue israélienne, mais aussi retrouver finalement le sens de ce qu'a été l'hébreu à son origine. Et l'hébreu, ça n'est pas une langue comme une autre. C'est une langue non seulement sacrée, bien évidemment, mais c'est une langue qui a un fondement spirituel. Et donc, on le sait, en hébreu, chaque mot a une origine qui parfois peut surprendre et qui permet finalement de lier à chaque fois ces mots à la terre d'Israël, à certains actes peut-être rappelés dans la Bible, à certains événements historiques. Et donc, il y a dans l'hébreu une mémoire. Et la langue, ça n'est pas seulement, ça c'est vrai pour toutes les langues, ça n'est pas seulement le dialogue, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une mémoire. Et la mémoire du peuple juif, elle est très très ancienne. Et donc lorsqu'on parle en hébreu, même en hébreu moderne, et qu'on utilise des mots, quelque part cette mémoire revient. Et donc il y a dans ce travail de la langue, je dirais, dans le sionisme, le sionisme n'était pas concevable, d'une certaine façon.
Sans l'hébreu.
Même si...
La question s'est posée.
La question s'est posée, et même si les premiers dirigeants, et notamment Herzl, pigeaient pas un mot en hébreu. Donc, quelque part, c'est ça qui est assez curieux. La langue, qu'est-ce qu'on fait avec la langue, Stéphanie? On vit, on a des émotions.
On communique, surtout.
On communique aussi. Ouais, pas beaucoup. Mais on développe évidemment des émotions personnelles, mais aussi il y a cette idée qu'on appartient. Il y a une appartenance. Et quelque part, ce qui est peut-être le renversement du sionisme ou ce qui peut peut-être faire la grande différence, c'est que dans le judaïsme, la terre n'est pas quelque chose dont nous sommes les propriétaires. Nous sommes, exactement comme la langue, nous sommes les dépositaires. Nous sommes là pour la développer. Mmh. Autrement dit, une langue qui ne se développe pas meurt, mmh. ou elle disparaît, ou elle reste une langue de chercheur dans les bibliothèques, comme le latin aujourd'hui, mmh. ou le grec, qui sont des langues, comme on dit, des langues mortes, qu'on peut connaître, mais uniquement parce qu'elles ne se sont plus développées. Et donc, la langue hébraïque, comme la terre d'Israël mmh. d'ailleurs, et c'est là où la métaphore est intéressante, et là où la métaphore est essentielle au sionisme, c'est que l'histoire d'Israël, elle est faite, si le peuple juif ne fait pas sur cette terre ce qu'il doit faire, c'est-à-dire développer cette terre, l'enrichir, la faire prospérer, il en est chassé. Mmh. Et c'est comme ça que le peuple juif se retrouve en exil. S'il n'accomplit pas son devoir envers la terre, cette terre les chasse finalement. Cette terre, il y a un mot en hébreu, on dit « Eretz ochel et yoshvea », c'est-à-dire cette terre dévore ses habitants si ses habitants ne les développent pas. Et c'est pareil de la langue. La langue, mmh. à un certain moment, a été laissée de côté, on ne l'a pas développée, et donc il faut aujourd'hui redévelopper cette langue. Si on ne développe pas sa langue, elle disparaît. Et donc, d'une certaine façon, la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Mmh. Et dans cette vision de la propriété, il n'y a pas de propriété, je veux dire, au sens foncier de la terre. La terre d'Israël, le retour à la terre d'Israël dans le sionisme, ça n'est pas nous avons un droit foncier sur la terre d'Israël, nous appartenons à cette terre pour la construire, pour la développer. Mmh. Et c'est ce que disent d'ailleurs, les premiers sionistes, il y a une chanson comme ça dans les pionniers sionistes, il dit « Nous sommes venus en terre d'Israël pour construire et pour nous construire. » Et donc, oui. il y a cette idée qu'il faut se développer. Et ce développement interne du juif sur sa terre, il passe par la langue. On ne se développe pas en tant que peuple, en tant que culture, en tant que nation. On ne se développe pas de la même façon en terre d'Israël qu'en diaspora. Mmh. Et c'est ça peut-être la question essentielle peut-être du sionisme qui, au fond, a posé une question essentielle. C'est où est l'avenir du peuple juif? Est-ce que le peuple juif a un avenir en exil ou est-ce que le peuple juif, son avenir, est en terre d'Israël? Alors, dans le sionisme, il y a eu des tendances, des gens qui pensaient qu'il fallait nier ce qu'on appelait la galoute, l'existence de l'exil. Et que donc le but du sionisme, c'était la négation de l'exil. C'est-à-dire, un juif, naturellement, ne doit pas vivre en exil. Il a vécu en exil à cause de certaines circonstances historiques, politiques et autres. Aujourd'hui que nous avons notre terre, il est de notre devoir de quitter la galoute, si nous le pouvons, évidemment, et de revenir sur la terre d'Israël. Et donc, la terre d'Israël, c'est finalement, l'avenir le peuple juif n'a pas d'avenir en diaspora. Mmh. Et vous avez d'autres mouvements, d'autres courants au sein du sionisme qui disent, certes, il y a une centralité de la terre d'Israël. Cette terre d'Israël, elle est centrale dans la vie du peuple juif, dans son histoire. Mais ce n'est qu'un centre. Il y a une périphérie. Et cette périphérie, ce qui est autour, peut très bien vivre et ne pas se sentir finalement en exil. Même si c'est un exil, mais c'est un exil qui est peut-être uniquement matériel. Alors, l'exil, est-ce une question? Ça, c'est la question que je pose. Je te pose aussi à toi, Stéphanie, hein, puisqu'on se tutoie en hébreu.
Absolument.
En hébreu, on se tutoie. Donc, est-ce que l'exil, c'est un exil intérieur ou c'est un exil extérieur? On peut très bien, d'une certaine façon, vivre en Israël et se sentir aussi en exil sur le plan intérieur, ne pas se sentir chez soi. Donc l'idée du sionisme, c'est non seulement de revenir sur la terre d'Israël physiquement, matériellement et politiquement, mais c'est aussi s'y sentir chez soi. Est-ce qu'on est dans notre demeure? C'est-à-dire que ça n'est pas un lieu, ça n'est pas un territoire. La terre d'Israël n'est pas un territoire. C'est un lieu, c'est un lieu qui doit nous servir de maison, de demeure, mais pas de demeure au sens physique, quatre murs, deux fenêtres et un toit, mais l'idée de se sentir chez soi. Comment on se sent chez soi? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi? C'est quand on ne s'y sent pas étranger. Et donc la langue, c'est
une manière de se
l'outil,
sentir.
L'instrument pour se sentir chez soi. Et c'est vrai que la première génération, dont nous faisons partie, toi et moi, nous sommes des anciens olives, nous sommes un peu sacrifiés, nous ne sommes pas nés dans l'hébreu. Nous avons nous sommes entrés dans l'hébreu de façon, je dirais, pas artificielle, mais de façon volontaire. Les gens qui sont nés dans l'hébreu, qui ont entendu l'hébreu dans leur berceau, sont probablement différents de nous. Ils ont une façon de, je dirais, quand est-ce qu'on se sent sioniste vraiment et quand est-ce qu'on se sent vraiment intégré en Israël ? C'est quand on rêve en hébreu. Est-ce que ça t'arrive déjà ?
Pas encore, malheureusement.
Bon, ça va venir.
J'espère.
Ça va venir. Mais c'est vraiment quand cette langue, elle devient une partie, une part de nous-mêmes. Ce point-là, c'est peut-être un point dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on a tendance à parler du sionisme politique, on a tendance à parler des idéologies du sionisme, on a tendance à parler d'événements qui ont fait l'histoire du sionisme depuis la création du mouvement sioniste jusqu'aujourd'hui. Mais au fond, le sionisme, c'est une aventure, je dirais, une aventure existentielle, une aventure qui fait que ça change la vie des gens, ça change de vivre non seulement sur la terre d'Israël, mais de vivre dans sa langue et d'appartenir. Ce n'est pas, comme je disais, nous appartenons à la langue, ce n'est pas la langue qui nous appartient, nous appartenons à la langue. C'est la langue qui pense en nous, d'une certaine façon, lorsque nous la maîtrisons. Lorsque souvent, bien sûr, quand c'est une langue maternelle, c'est beaucoup plus facile. Mais le vrai moment où tu pourras dire, Stéphanie, je suis sioniste, je suis intégré en Israël, c'est le moment où la langue pensera en toi. La langue hébraïque pensera en toi et tu pourras construire ce qu'on pourrait appeler un monde intellectuel, spirituel, dans cette langue. C'est difficile, ça suppose évidemment un enseignement, ça suppose un apprentissage, ça suppose aussi d'entrer spirituellement dans une langue. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais j'ai une petite question. Est-ce que ce n'est pas être plus sioniste que d'aller vers l'hébreu, que d'apprendre l'hébreu, que de vouloir aller vers l'hébreu, plutôt que d'être né sur la terre et de ne pas avoir fait le choix justement de l'hébreu ? Est-ce que le sionisme, ce n'est pas aller vers ?
C'est une bonne question.
Choisir.
Alors effectivement, il y a, dans l'idée du sionisme au départ, l'idée de les juifs, aujourd'hui, peuvent choisir. Et donc, avant, ils ne pouvaient peut-être pas choisir. Ils étaient condamnés à l'exil ou ils avaient été expulsés de la terre d'Israël. Et donc, ce n'était pas de leur propre choix. Aujourd'hui, être sioniste, c'est choisir. C'est dire, par exemple, lorsque je vis en diaspora et que je ne suis pas retenu, comme ça a été le cas des Juifs en Union soviétique ou dans d'autres pays où ils étaient persécutés, mais si je peux faire ce choix, je le fais. Et à ce moment-là, j'accomplis un acte. Un acte sioniste, un geste sioniste qui consiste à faire mon alia. Cela dit, les raisons de l'alia sont des fois beaucoup plus complexes et souvent les gens font leur alia non pas par sionisme au sens où ils veulent intégrer cette aventure d'appartenance.
Ils ne vont pas vers,
ils quittent quelque chose qui les a déçus ou quelque chose qui les a rejetés ou dont ils se sentent rejetés. Donc je ne suis pas sûr que toutes les aliotes, comme on dit, sont des aliotes qui sont faites par pur choix sioniste, à savoir dans l'idée que cette alia va nous apporter quelque chose sur le plan spirituel. L'idée de l'alia, c'est qu'il y a une élévation. Lorsque j'entre dans ce monde, sur cette terre d'Israël, il y a un plus. Comme dirait une chanteuse française, il y a un supplément d'âme. Est-ce que ce supplément d'âme vient de la langue, vient de l'idée qu'on appartient à cette langue et que cette langue finalement travaille en nous, pense en nous et développe, le monde spirituel juif de demain, quelque part. Il y a une créativité de la langue. Et c'est cela que le sionisme a réussi à faire, même si on peut dire il y a dans la langue des aspects tout à fait techniques. Et puis aujourd'hui, même en Israël, on parle des fois en hébreu avec beaucoup d'anglais et beaucoup de langues étrangères. Mais d'une certaine façon, une langue, c'est un outil qui permet la créativité. Et cette créativité, le sionisme l'a rendue possible. C'est ça la grandeur, je dirais, d'une certaine façon, du sionisme, parce qu'il a permis à ce déclic de créativité de se faire. Ça ne veut pas dire que les Juifs en diaspora n'étaient pas des grands inventeurs, n'étaient pas peut-être de grands intellectuels. On le voit encore aujourd'hui, de grands intellectuels juifs qui vivent hors d'Israël. Mais peut-on aujourd'hui dire qu'on est un intellectuel juif si on ne sait pas l'hébreu ?
Intellectuel juif, peut-être. Intellectuel sionisme, peut-être pas.
Mais même intellectuel juif, qu'est-ce que ça veut dire penser le judaïsme sans connaître la langue du judaïsme ? C'est quelque chose aujourd'hui. Alors quand ça n'était pas possible, quand il n'y avait pas d'outils d'apprentissage de l'hébreu moderne, je peux comprendre que quelqu'un qui n'aurait pas fréquenté une yeshiva, peut-être, ne sait pas l'hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ne pas savoir l'hébreu et vouloir penser le judaïsme ou penser, je dirais même, l'histoire juive sans connaître cet outil fondamental qui nous permet justement de définir ou de vivre notre appartenance à ce peuple. Ça n'est pas seulement un choix moral, c'est quelque part quelque chose qui dépasse la morale. Il y a deux visions finalement, ou peut-être plus, mais il y a deux visions un peu du judaïsme. Il y a les gens qui pensent le judaïsme uniquement en termes d'éthique, qui disent finalement, être juif, c'est s'identifier à une certaine morale, à certaines valeurs qui ont été inculquées par le judaïsme depuis Moïse, depuis la loi, nous avons inventé toutes les grandes valeurs de l'universel. Et puis, il y a dans le judaïsme des gens qui disent, oui, la morale c'est très très bien, mais il faut aussi agir en juif, se comporter en juif, vivre en juif. Alors ça veut dire évidemment peut-être pratiquer. Moi je ne suis pas là pour donner des leçons d'observance en matière de pratique religieuse ou autre. Mais il est évident que si on veut vivre son judaïsme pleinement et non pas partiellement, il faut se donner tous les outils, tous les instruments. On ne peut pas renoncer à un instrument. Et quel est l'instrument essentiel de notre construction intellectuelle, spirituelle et même affective, sinon la langue ? Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ma vie aurait été la même en tant que philosophe, intellectuel, si je ne connaissais pas l'hébreu. J'en ai pas eu la même vie, d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cette langue.
Mais est-ce que tu aurais eu ce besoin si tu n'avais jamais vécu en Israël, si tu avais décidé de rester en France sans venir ? C'est la question que je me pose, c'est-à-dire qu'on parle de judaïsme et on parle de sionisme. Est-ce que l'hébreu est important pour les juifs de la diaspora ? Doit être important pour les juifs de la diaspora ?
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, l'hébreu fait partie, je dirais, de ce combat contre l'ignorance.
D'accord.
D'une certaine façon, aujourd'hui, on ne peut pas rester dans l'ignorance. On ne peut pas, c'est comme aujourd'hui, les outils existent. La capacité d'apprendre l'hébreu existe. Le temps, nous l'avons. Toute la technologie et même l'enseignement existent. Donc, renoncer à l'hébreu, renoncer à l'apprentissage de l'hébreu, c'est une faute morale. C'est plus qu'une faute intellectuelle, c'est une faute morale. Parce que c'est se fermer la porte à une culture, c'est se fermer la porte à la terre d'Israël aussi. Aujourd'hui, cette terre d'Israël, elle nous parle en hébreu. Elle nous appelle en hébreu. On ne peut pas aujourd'hui la vivre autrement qu'à travers ses sources et ses racines hébraïques.
Nous allons faire une petite pause musicale.
ספר על הקיר תמונה והעיקר חורש בה את האדמה וברקע הברושי שמי שרב חברי העיקר יצמיח Yeah. בדמיוננו התרבו פלאות, הפטישים ניגנו מחרשות רענות. יש קורמים ויש יוגבים, ארץ של רועים, כך להצטיין
Magnifique chanson. Quelle est-elle, Michael?
C'est un choix que j'ai fait de cette chanson de Chava Alberstein. Ça s'appelle Shiur Moledet. Alors, Shiur Moledet, en français, je ne sais pas, c'est peut-être une leçon qu'on apprend à l'école. Ça, les enfants apprennent ça. Moledet, c'est la patrie.
Mm-hmm.
C'est un peu l'instruction civique. Mm-hmm. Hein, c'est un peu les leçons d'instruction civique, mais ça dépasse l'instruction civique. C'est la Moledet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend sur notre terre? Et on apprend sur notre terre, pas seulement sa géographie. Parce que dans un autre pays, eh bien on apprendrait la géographie, on apprendrait l'histoire. Mais nous avons d'autres choses à dire sur cette terre. Cette terre nous parle autrement que par l'histoire et par la géographie. Elle nous parle aussi par la Bible. Elle nous parle aussi par la langue qui, justement, désigne tous ces endroits et tous ces lieux et tous ces sites qui ont du sens. Les Juifs ne sont pas sur la terre d'Israël, ou n'ont pas été sur cette terre d'Israël uniquement pour y trouver un lieu géographique ou un territoire où habiter, mais pour y réaliser un projet, un projet historique dont, je dirais, dont un projet historique qui a marqué l'histoire, un projet qui est à la fois moral, mais aussi universel d'une certaine façon. Et c'est dans cette particularité juive que se trouve l'universalité du judaïsme, et non le contraire. Et donc, je pense que penser le judaïsme uniquement en termes universels, c'est une erreur, parce que c'est justement couper les racines, couper le fondement même du judaïsme. Le judaïsme ne s'est pas fondé sur la lune, il s'est fondé sur une terre, et sur la promesse d'une terre qui a été, je dirais, gagnée, entre guillemets, en tout cas conquise, mais à quel prix? Et chaque personne, cette personnalité, chaque personnage de la Bible, lorsqu'il a commis des erreurs envers cette terre, il a été
exclu de la terre.
Et gravement puni. Gravement puni. Moïse n'a pas pu entrer en terre d'Israël parce qu'il a douté à un moment. Donc, le châtiment de Dieu est extrêmement violent, justement, lorsque on offense la terre. Et ça, c'est un élément fondamental du judaïsme. Le judaïsme est lié à cette terre, non pas au sens de la propriété foncière, non pas au sens d'occuper une terre physiquement, mais parce que cette terre le rend meilleur. Et qu'il doit aussi rendre cette terre meilleure parce qu'elle le rend meilleur. Et c'est dans ce dialogue, dans cette dialectique, pour utiliser un terme philosophique, dans cette dialectique entre l'homme et la terre, et par la langue hébraïque, et donc par l'hébreu, par la culture, par cet esprit du judaïsme, que c'est conçu ce qu'on appelle le judaïsme. Alors, si aujourd'hui les juifs pensent qu'on peut faire l'économie de cette relation à la terre, je voudrais bien qu'on m'explique comment.
Bah, pour un juif de la diaspora, qui est exclu de cette alliance peuple-terre-langue, quel est l'intérêt, la nécessité, l'importance d'apprendre l'hébreu ?
D'abord, je pense que tout juif doit construire ce que j'appelle sa maison intérieure.
C'est-à-dire ?
Sa petite maison intérieure. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de sujets, mais parce que voilà, c'est plus à la mode en philosophie, on parle d'autres concepts. Mais je pense que toute personne a besoin de construire sa maison intérieure, sa petite demeure intérieure, et donc avec les éléments spirituels et culturels, intellectuels, affectifs, qui lui permettent de construire cette petite maison intérieure.
Son Israël intérieur.
Voilà, Et donc, même un juif qui vit en diaspora aujourd'hui, s'il veut construire sa vraie maison intérieure juive, il a besoin de l'hébreu, il a besoin de la terre d'Israël, Et il peut y aller, il peut s'y rendre, il peut y développer un lien, même si peut-être aujourd'hui il n'a pas la possibilité matérielle ou technique, disons, ou familiale de s'y installer. C'est toujours des destins des familles, c'est un choix personnel. Je crois que même si on n'a pas la possibilité aujourd'hui de s'installer en Israël, on doit pouvoir développer ce lien et construire cette petite maison spirituelle intérieure de juifs où l'État d'Israël, même l'État d'Israël en tant qu'État, la terre d'Israël, la langue hébraïque, sont une part de cette construction. On ne peut pas faire l'économie de cela. Aujourd'hui, j'entends des intellectuels juifs me dire depuis qu'il y a un État d'Israël, l'État de cet État d'Israël est obligé de faire des choses terribles, la police, il y a des prostituées, il y a des voleurs juifs, donc sur cette terre, comme dans tout État, il faut gérer et faire des choses qui sont peut-être violentes et peut-être... Et ces gens-là préféraient évidemment que les Juifs aient les mains pures et innocentes et n'accomplissent pas toutes ces tâches, je dirais, ces basses tâches quotidiennes. Mais quelque part, c'est vivre dans une utopie. Le génie juif n'a rien à voir avec le fait qu'il y a une armée, une police, des prostituées, des voleurs et des escrocs et toutes sortes de fonctions qui sont dans toute société normale. D'une certaine façon, le génie juif se développe en terre d'Israël dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la science, que ce soit les domaines de la culture ou d'autres domaines, même de la recherche juive et même du yiddish, je dirais. Donc, d'une certaine façon, le génie juif, la garantie de l'existence de ce génie juif est plus sûre lorsque nous avons un État à nous avec des frontières défendues par une armée forte et puissante que si nous sommes dépendants du bon gré d'un monarque ou d'un dictateur ou d'un État qui, du jour au lendemain, tourne le dos aux Juifs. Et on a vu que ça peut arriver. On a vu que l'antisémitisme peut renaître. Et donc, si on pense qu'on peut développer un génie juif lorsqu'on crie mort aux Juifs en bas de chez vous ou lorsqu'on brûle des synagogues, il faudra qu'on m'explique comment faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ne pas résister, qu'il ne faut pas combattre ou qu'il faut se laisser faire. Mais d'un autre côté, ce qui redonne aux Juifs la capacité de développer cette culture, cette maison intérieure, c'est justement à la fois l'existence de l'État d'Israël et ce que le sionisme a apporté, à savoir la renaissance d'une langue, la renaissance d'une culture et la présence sur une terre. Alors, la présence sur une terre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'est pas seulement habiter. C'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire habiter en juif sur la terre d'Israël ? C'est d'abord payer un loyer très important, souvent.
Absolument.
Et ça, c'est pas la meilleure partie. Mais Israël, aujourd'hui, c'est une façon d'être responsable de son destin. Donc la terre d'Israël nous permet de prendre en main notre destin. Alors évidemment, c'est difficile. Une société, comme toutes les sociétés modernes, il y a des difficultés liées à l'économie, liées à la société, liées au jeu de pouvoir. Et donc on n'est pas à l'abri de difficultés. Mais ce destin, il se joue, le destin du peuple juif, il se joue ici. Et il se joue en terre d'Israël. Il ne se joue pas à Paris.
Du coup, quel est ce sionisme, en fait, la véracité de ce sionisme dans la réalité d'aujourd'hui en Israël ? Est-ce qu'il existe encore ? Comment on est sioniste en Israël ?
C'est une bonne question, d'une certaine façon. Sioniste, c'est un mot un petit peu galvaudé, c'est-à-dire c'est un petit peu dans l'israélien moyen, le sionisme, c'est quelque chose d'un peu, je dirais, un peu obsolète, quoi. On parle de ça comme, c'est les pionniers, c'est quelque chose qui est un peu passé. Donc souvent, j'entendais des fois des professeurs à l'école qui, quand on remontait les bretelles aux enfants, on leur fait un petit cours de sioniste, c'est-à-dire c'est une façon de dire... on va vous remettre les pendules à l'heure. C'est quand on va réprimander ses enfants, on avait appelé ça un cours de sionisme. Et donc c'est un petit peu un côté comme ça, un petit peu abusant, ironique. On ironise beaucoup sur le sionisme. Et puis d'un autre côté, on ne connaît plus vraiment toutes les histoires des pionniers, de toutes les je dirais, tout ce qui a fait, tout ce qui a construit l'État d'Israël, et surtout en amont, tout ce qui a été, je dirais, les événements qui sont antérieurs à, même à la création de l'État d'Israël et aux sacrifices payés par les gens qui se sont battus et qui sont morts pour cette terre. Donc le sionisme, c'est ça. Et puis d'un autre côté, on voit que malgré tout, il y a une très forte appartenance, un lien très fort avec la terre d'Israël, qu'il y a une vitalité de ce pays, et que finalement, qu'est-ce qu'être sioniste, c'est développer la terre d'Israël. Mais si la terre d'Israël se développe grâce aux start-up qui font rentrer des millions de dollars dans la terre d'Israël, c'est du sionisme. Voilà, c'est du sionisme parce que ça participe à cette prospérité de l'État d'Israël. Alors, on n'est plus dans le sionisme naïf. On a dépassé la période de la faucille et du marteau, si je peux dire, et de la bêche et du tracteur. On est passé peut-être à une autre époque, mais il y a malgré tout un lien très fort avec cette terre, même chez les jeunes Israéliens qui parfois ironisent sur ce lien.
Encore une petite pause musicale.
כמו העץ, האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה.
Magnifique chanson. Parle-nous d'elle, s'il te plaît, Nicaël.
L'homme est comme l'arbre des champs. Chanson chantée par Noé de Galron, mais dont le texte est issu de la Bible. C'est un verset de la Bible qui dit « L'homme est comme l'arbre des champs ». Alors, pourquoi cette comparaison entre l'homme et l'arbre ? Effectivement, les hommes ont des, non pas des branches, mais des bras. Mais en hébreu, l'homme, c'est Adam, et la terre, c'est Adama. Mmh. Et donc, c'est un couple. Au fond, il y a une relation, dès le départ, entre l'homme et la terre. Il ne s'agit pas, je dirais que c'est presque comme une relation conjugale, d'une certaine façon. L'homme est là pour faire vivre la terre, et la terre est là pour faire vivre l'homme. Et donc, l'homme ne doit pas, c'est là où il y a déjà, dès le début, dans le judaïsme, une conception de l'écologie. Il faut préserver les fruits de la terre, il ne faut pas gaspiller ce que la terre nous a donné, ce que Dieu a donné au fond à travers cette terre. Et donc nous ne sommes pas là pour exploiter la terre, nous sommes là pour faire profiter l'homme de cette terre sans la détruire, sans gaspiller ce qu'elle nous donne. Et c'est dans cette relation-là que se situe le sionisme, à savoir nous sommes venus sur cette terre pour la développer, pour la rendre prospère, pour que des hommes puissent vivre dessus et vivre de ses fruits, mais non pas pour épuiser ses ressources. Mmh. Et ça, c'est fondamental dans une relation de couple. Il ne faut pas s'épuiser l'un l'autre, sinon ça se finit très très mal. Donc, le sionisme a dès le départ essayé de comprendre quelle était la relation de l'homme à la terre. Alors, il y a eu, on en a parlé, ce retour à la terre, puisque les Juifs avaient été éloignés de l'agriculture et du travail de la terre. Il a fallu qu'ils retrouvent d'une certaine façon, qu'ils réapprennent à utiliser la charrue, et qu'ils réapprennent à utiliser les tracteurs. Mmh. Mais cette relation à la terre, elle est une relation qui est une relation au départ spirituelle et non pas matérielle. Mmh. La terre d'Israël, j'ai coutume de dire, ce n'est pas un terroir, ce n'est pas quelque chose dont on se souvient en disant « voilà, je suis né, j'ai respiré la bouse de la ferme de mon grand-père ». Il s'agit d'une terre qui nous a été promise et qui ne peut être nôtre ou à laquelle nous pouvons appartenir que si nous accomplissons nos devoirs envers elle. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important dans la conception du sionisme, à savoir, il ne faut pas exploiter cette terre et la rendre malheureuse. C'est comme, c'est comme dans un couple. Il ne faut pas rendre sa compagne malheureuse. Mmh. Et ça, c'est important parce que, dès le départ, la relation n'est pas une relation physique, n'est pas une relation matérielle. Elle se place à une dimension spirituelle. Mmh. Et la relation à la terre, je dis, ça n'est pas au sens de racine, même si l'homme est un arbre des champs et qu'il a des racines. Ce qui est important dans l'arbre, c'est les fruits qu'il apporte. Mmh. Ce ne sont pas seulement les racines. Effectivement, il a des racines. Mais nos racines, elles ne sont pas des racines physiques sur cette terre. Elles sont des racines avant tout spirituelles. Ce sont des racines aussi morales. Nous avons accompli une histoire ici. Nous avons réalisé quelque chose. Et cette terre nous est promise uniquement si nous accomplissons nos devoirs envers la terre. Ça, c'est fondamental. Ça n'est pas le projet... le sionisme n'est pas un projet agricole. Mmh. C'est pas non plus un projet écologique au sens de protection de la nature. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, la notion de nature n'a pas le même sens. Je pense que n'a pas le même sens, je dirais, que dans la philosophie occidentale. Le mot de nature, teva, ça n'est pas exactement... On ne peut pas traduire tout à fait ça comme nature, même si on a l'habitude de traduire teva par nature. Mmh. C'est plutôt commode, disons, c'est une commodité. Mais ça n'a pas du tout le même sens. Ta voix, c'est quelque chose qui est planté. Donc l'idée de la nature, c'est de planter.
D'accord, c'est la nature exploitée.
Pas exploiter, je dirais, c'est planter pour que la nature puisse continuer à vivre.
D'accord.
Et donc, il s'agit pas, il n'y a pas une nature au sens, je dirais, européen. La nature, ça, voilà, même s'il y a ici aussi une association de protection de la nature, mais la nature au sens étymologique, je dirais même dans la langue, dans l'hébreu, c'est quelque chose, c'est aller en profondeur. C'est pénétrer cette terre pour planter et pour développer la terre. Mmh. Il ne s'agit pas d'une nature qui aurait des règles à elle et dont il faudrait suivre les règles de la nature, une espèce de loi naturelle. C'est le terme concept de loi naturelle n'a pas de sens. De même, le sionisme n'a pas non plus développé une idée politique comparable à celle qu'on connaît en Europe, notamment les conceptions de la cité. Par exemple, Israël, ce n'est pas une polis au sens grec. C'est une terre, c'est une demeure, c'est une demeure à laquelle on appartient, mais ça n'est pas une cité. Ce n'est pas quelque chose qui doit fonctionner selon certaines règles civiles. Ce n'est pas comme ça qu'on voit le projet sioniste. C'est-à-dire que, au fond, lorsque la souveraineté du peuple juif est rétablie sur la terre d'Israël, cet État d'Israël a une mission. Cette mission, elle est envers le peuple juif. Mmh. Elle est de transformer cet endroit en une demeure, en un endroit où les juifs se sentiront bien, et surtout en un endroit où ils pourront même accueillir des étrangers. Mmh. Donc cette idée d'hospitalité, cette idée que c'est une terre qui doit devenir accueillante, cette idée de l'accueil, si vous voulez, c'est fondamental.
Ce n'est pas une cité fermée.
Ce n'est pas une cité fermée dès le départ. Il s'agit de... Il n'y a pas, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose qui est là pour réaliser la démocratie non plus, même si, évidemment, l'État d'Israël est un État démocratique. Mmh. Mais, c'est un moyen, si vous voulez. L'État d'Israël est un moyen pour une mission qui dépasse la mission politique. Mmh. Même si la mission politique, elle est fondamentale, elle est importante, elle détermine beaucoup de choses. Mais cet État n'aurait pas de sens s'il n'avait pas une autre mission que la mission politique, disons, d'une cité. Il ne s'agit pas d'une cité pour que les gens vivent bien. Ce n'est pas la conception, je dirais. Ça n'est pas de vivre ensemble. Ce n'est pas une espèce de vie collective où tout le monde serait bien et heureux et gentil. Ça n'est pas même, je dirais, un instrument du bonheur. Hein, ce n'est pas la recette « Comment être heureux en terre d'Israël en 10 leçons ». Ce qu'on appelle les livres en anglais de « Chicken Soup ». Ça n'est pas... comment être heureux en Israël et réussir son alia, etc. On en dit le son, ça ne se passe pas comme ça. La terre d'Israël, elle réserve des surprises, elle réserve aussi beaucoup d'aventures. Elle n'a pas, le projet sioniste n'a pas un but précis. Il est un moyen pour quelque chose. Et donc le peuple juif, ne pouvant plus vivre en exil et ne pouvant plus se réaliser en tant que peuple, en tant que nation, avec tous ses attributs, en diaspora et en exil, il a donc besoin d'un autre instrument dans l'époque moderne. Dans une autre époque, peut-être que ça aurait été possible autrement. Mais dans l'époque moderne, le seul moyen par lequel le peuple juif peut réaliser ou peut se réaliser et vivre pleinement son judaïsme, c'est par ce moyen ou par cet instrument qui s'appelle l'État d'Israël. Et là, la relation à la terre, elle est importante parce qu'il ne faut pas voir cette terre uniquement comme une propriété, comme un objet. La terre n'est pas un objet. La terre, nous devons entrer en relation avec cette terre. Il faut aimer cette terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça, c'est assez compliqué à expliquer. Mais il y a quelque chose d'important dans le judaïsme. C'est que les juifs avaient compris avant tout le monde.
C'est quoi?
C'est qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc... Il faut, les juifs, non seulement doivent aimer cette terre d'Israël, mais ils ne doivent pas comme ça aimer, je dirais, de manière romantique et se trouver en pamoison comment cette terre est belle, même si on peut la trouver très belle. Il faut faire la preuve de son amour. Et cet amour doit être prouvé quotidiennement. Ce qui explique aussi, parfois, le prix que nous avons à payer pour cette terre. Mmh. Parce que c'est une terre qui est exigeante, qui, parfois, nous fait payer le prix de notre amour. L'amour est quelque chose de parfois malheureux et donc parfois difficile à réaliser. Mmh. Et c'est justement toute la difficulté, je dirais, du sionisme, qui à la fois, pour moi, n'est pas une idéologie, mais c'est justement une espèce d'aventure existentielle, quelque chose qui se passe dans notre vie, qui change le cours de notre vie, comme l'amour, et qui, évidemment, exige de nous un prix, exige de nous des preuves, exige de nous d'accomplir certains devoirs envers cette terre. Et au départ, on ne sait pas quel prix nous allons payer. C'est cela qui est peut-être ce côté, je dirais, aventureux du sionisme. Pour moi, le sionisme, ça a été probablement la plus belle aventure humaine du XXe siècle.
Nous allons faire une pause musicale et nous revenons tout de suite.
Shamming my heart and I'm
אחד קנה לי ספר בן מאה שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה, ומאז אני בדרך שרבים כמו זו.
אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך.
Parle-nous d'elle, s'il te plaît, Michael.
C'est une chanson d'abord une chanteuse que tout le monde adore en Israël, malheureusement décédée il y a quelques années, Naomi Shemer, cette chanteuse, compositeur, chanteur national, Yerushalayim Shezav, tout le monde connaît. Ah. Et Naomi Shemer écrit une chanson que j'aime beaucoup qui se dit Anashim Tovim, des gens bien. Mm. Et donc, elle raconte, voilà, on se promène en Israël et on rencontre des gens bien. Anashim Tovim. Je crois que c'est ça qui est important aussi de sommes-nous devenus des gens bien.
Eh bien justement, Michael, Israël et le sionisme, est-ce que ça a permis de renforcer l'identité juive ou au contraire, ça l'a un peu éloigné ?
Alors, historiquement, évidemment, il y a eu, dans le projet sioniste face à la modernité, il y a eu certains courants sionistes qui se sont un peu éloignés du judaïsme ou en tout cas qui avait une espèce de vision un peu caricaturale du juif de la diaspora, de ce juif qu'on appelait galoutique, le juif de l'exil, une espèce de paria, et qui finalement voulait construire un homme nouveau, décomplexé, musclé, qui était prêt à se battre, et voilà, il y avait cette image peut-être caricaturale du juif de la diaspora, qui était un petit peu le juif du ghetto, quoi, qui finalement... Et donc le sionisme a voulu donner une autre image du juif. La santé, le combat, l'amour de la nature, le travail physique, et surtout une vision peut-être décomplexée de la vie, voilà. Donc cette... je dirais, cette ouverture à la nature et à la joie et au développement, je dirais, de la jeunesse, ça a été peut-être au début du sionisme une partie de la vision de certains courants sionistes. Petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, l'État d'Israël, ça n'avait pas de sens, et le sionisme, ça n'avait pas de sens, sans un lien, une référence à la tradition juive, et, je dirais, aux fondamentaux, c'est-à-dire, évidemment, la religion d'Israël, même si le mot religion n'existe pas en hébreu, à la Torah, aux valeurs, à ce qui a fait l'histoire du peuple juif. On a beaucoup critiqué, en son temps, Ben Gurion, qui voulait qu'on enseigne la Bible, et ensuite le sionisme. C'est-à-dire, au fond, il ne se serait rien passé entre la Bible et l'ère moderne. Et donc, qui avait, quelque part, mis de côté... toute la richesse, tous les trésors du judaïsme de diaspora, que ce soit en Espagne, en Pologne ou ailleurs, et qui donc avait voulu pour construire ce nouvel homme sioniste, pour le construire l'identité de ce nouvel Israélien, si je peux dire, mettre de côté tous les aspects galoutiques qui avaient constitué l'identité juive. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, l'État d'Israël, les Israéliens, le monde juif comprend que dans la relation entre Israël et les communautés juives en diaspora, c'est là que se joue l'avenir du peuple juif et donc que se construit l'identité juive. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le concept d'identité. Je trouve que c'est un concept assez réducteur qui n'a pas vraiment de sens au sens hébraïque. Nous ne sommes identiques à rien du tout, puisque le judaïsme s'est constitué dans l'altérité, d'une certaine façon. Donc, quelque part, je sais ce qu'est un autre, mais ce qui est identique, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je ne sais pas très bien définir cette identité. Et donc, pour moi, j'ai une théorie que j'appelle la théorie des mousquetaires.
Quelle est-elle ?
Ah ben, pour moi, ce qui constitue l'identité, mais je dirais plutôt le monde spirituel ou la maison intérieure spirituelle de chaque personne, ce sont quatre éléments, quatre petits mousquetaires qui, puisque les trois mousquetaires étaient quatre,
absolument.
On sait bien, depuis Alexandre Dumas, nous savons que les trois mousquetaires étaient quatre. Et donc, pour moi, il y a mythos, pathos, logos et ethos, qui sont les quatre éléments qui constitue au fond l'identité d'une personne, à savoir mythos, le mythe, quelles sont les valeurs sur lesquelles nous fantasmons d'une certaine façon, comment constituer notre imaginaire, qui se compose de choses peut-être réelles, qui se sont déroulées ou pas déroulées, en tout cas de la façon dont nous les racontons. Donc il faut se raconter des histoires. Et donc il y a dans le sionisme, la constitution de l'histoire moderne d'Israël, il y a une histoire, il y a un récit. Il y a ce qu'on dirait aujourd'hui un narratif. Je préfère le mot mythos au mot narratif. Il y a une histoire, je dirais un récit fondateur, un récit qui est porteur d'une histoire et que nous pouvons nous raconter. Après, il y a un peu de pathos, parce qu'il faut bien un peu d'émotion, un peu d'affectif. Bon, on regarde de temps en temps Exodus, et puis on écrase une larme. Vrai. Et puis après, on a ce pathos aussi, ce lien affectif avec Israël, on le voit dans toutes les communautés juives, quoi. Tout le monde, j'avais un ami qui disait, moi je me sens pas du tout juif, mais quand j'achète le journal, je regarde la page Proche-Orient de où tout est mort. Donc il y a cette espèce de lien affectif avec la terre d'Israël, ce pathos qui est présent, qui fait partie de... Bon, alors évidemment, les intellectuels un peu comme moi, ils ont dit non, pas de pathos, mais ça fait partie l'émotion, l'affectif, le lien, de sensibilité, et nous sommes extrêmement sensibles ces derniers temps. Notre sensibilité est extrêmement mise à l'épreuve.
Absolument, oui.
Et le troisième élément, c'est le logos. Alors le logos, c'est effectivement la construction intellectuelle et donc l'explication logique de ce qu'a été le sionisme, qui est le résultat d'une histoire qui s'est déroulée à travers les 2000 ans d'histoire passée en exil et l'idée qu'à un moment de l'histoire, il fallait que les Juifs retournent sur leur terre, y créent leur État et que ça faisait partie d'une certaine logique de l'histoire. Et que ce... Le rétablissement de la souveraineté n'est pas quelque chose d'artificiel, pas quelque chose d'éphémère, mais c'est le résultat d'une pensée. Et donc cette pensée, elle se réalise, cette pensée juive, moderne, elle peut se réaliser à partir de penser la modernité. Et curieusement, tous les penseurs juifs qui ont, d'une façon ou d'une autre, essayé de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire d'être juif dans le monde moderne, ils sont arrivés à l'idée que les Juifs avaient besoin d'un État, avait besoin de Spinoza jusqu'à d'autres penseurs, Shimshon, Raphaël Hirsch et d'autres, qui ont tout de suite compris que la modernité imposait dans la pensée un changement, y compris un changement dans la vision politique d'un peuple.
Le logos, c'est aussi la langue, c'est aussi l'hébreu ?
Oui, c'est bien évidemment la langue, c'est la culture, c'est le développement de tout ce qui a constitué, je dirais, le monde intellectuel, spirituel d'un juif aujourd'hui. Et il y a ethos. Ethos, c'est la morale, et c'est surtout penser, et je crois que ça, c'est fondamental aujourd'hui dans le débat qui nous oppose aux gens qui considèrent le sionisme comme soit comme une erreur, soit parfois comme une idéologie qui ne leur convient pas, c'est-à-dire que le fondement du sionisme est parfaitement moral. Mmh. Et donc, il y a une moralité profonde du sionisme. Le peuple juif a un droit à décider de son propre avenir, à avoir son propre État, à avoir la capacité de se défendre et de construire à la fois sa maison extérieure et intérieure. Mmh. Et donc, c'est un projet foncièrement moral. Et ça, je crois qu'il faut le répéter. Mmh. Et j'ai, dans toutes les interventions que je fais sur le sionisme, je ne cesse de répéter que le fondement principal du sionisme, c'est sa moralité. C'est le fait que c'était rendre justice, c'est une façon de rendre justice au peuple juif. Non pas seulement après la Shoah et après les persécutions et l'antisémitisme, mais parce que le peuple juif ne peut être profondément moral et réaliser ce qu'il a apporté au monde à travers la Torah et les textes juifs et la culture juive qu'à travers le sionisme. Aujourd'hui, le sionisme a été un mouvement moral qui a redonné au peuple juif une place dans les nations, une place dans l'ordre du monde. Et je pense qu'un monde sans l'État d'Israël, sans le sionisme, serait un monde en grand, grand désordre. Mmh.
Merci beaucoup, Michael. Nous nous retrouvons très, très bientôt. C'était Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. À très vite.
בחדרו הקטן, במלון הישן, ישב גבר צעיר, שחור שיער וזקן, ישב וכתב רעיון מטורף, מדינת היהודים, קום תקום. הוא ידע לחלום ולהרעיב אנשים, אך ידע שצריך כל חלום להגשים, ולכן הוא כינס את עמו לקונגרס ודיבר עליהם ציונות. הוא אמר להם אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. הוא אמר להם אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. והם באו כולם לאותו הקונגרס והקשיבו לאיש הנלהב התוסס האומר די לחלום כי הגיע היום לעשות מעשים של ממש. כך נולדה לרפת התנועה חדשה שדיברה ועשתה ציונות בלי בושה, והעם הנדהם התבונן בנרגש וזקף את ראשו מחדש. הוא אמר פתאום אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. הוא אמר פתאום אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. כך חלפו השנים ואותה התנועה לא שקטה ולא נחה אפילו שעה, וכל מה שעשתה כבר נחקק ונרשם בדברי תולדותיו של העם. והיום כששמים מסביבה מרחאות מבטה העיקש שוב פונה לבאות יומי